Laudetur Jesus Christus.
Toute cette semaine, nous partons à la découverte de l'Irak qui attend le pape François à partir de vendredi. Ce matin, focus sur la réalité politique et sécuritaire du pays, traversé par de multiples crises. Nous entendrons le chercheur Adel Bakawan. Israël lance un projet pilote pour surveiller les personnes soumises à une quarantaine dans le contexte de la crise sanitaire, le bracelet électronique, une option pour faire sa période d'isolement à la maison, mais sous surveillance. Dans ce journal également, le changement de ton des Américains face à Moscou. Des sanctions sont imposées à des responsables russes impliqués dans l'affaire Navalny. L'ancien président péruvien, une nouvelle fois sur les bancs de la justice, accusé d'avoir fait stériliser plus de 300 000 femmes. Et puis, reportage en Éthiopie qui célébrait hier les 125 ans de la bataille d'Adoua. Des célébrations qui ont cette année un goût particulier, tandis que se déroule un conflit dans le nord du pays.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour, c'est un des pays les plus rapides dans sa campagne de vaccination. Nous prenons tout de suite la direction d'Israël. L'État hébreu applique une stricte politique pour endiguer la pandémie et entend mettre en place un passeport vert valable pour 6 mois pour les personnes vaccinées. Pour l'instant, les frontières restent fermées et les rares personnes qui parviennent à se faire rapatrier doivent rester 2 semaines à l'isolement. Alors pour éviter aux voyageurs de faire la quarantaine dans des hôtels, le gouvernement lance un projet pilote de bracelet électronique. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
Léger, ergonomique et étanche, le bracelet électronique est accompagné d'un smartphone et d'une balise. Depuis lundi, les kits sont disponibles à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. L'avantage pour les personnes non vaccinées qui arrivent dans le pays, passer la quarantaine de rigueur à domicile plutôt que dans des hôtels gérés par l'État. L'adresse de l'individu est enregistrée grâce à un système GPS sur le téléphone et le signal émis, surveillé par les autorités sanitaires. Pour obtenir le bracelet, les voyageurs doivent justifier d'un test PCR négatif datant de 72 heures avant le décollage, puis d'un autre à leur arrivée en Israël. Il s'agit pour le moment d'un projet pilote, mais la start-up qui a mis au point les bracelets prévoit d'en distribuer des dizaines de milliers. Un dispositif décrié en Israël pour ses atteintes au respect de la vie privée, des recours pourraient être déposés devant les instances juridiques. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Le Liban, englué dans le marasme économique sur le marché noir, la livre libanaise chute pour atteindre un niveau bas inédit. 10 000 livres libanaises pour 1 dollar et ce n'est pas sans déclencher la colère de la rue. Hier, dans plusieurs régions du pays, y compris la capitale, des dizaines de manifestants ont bloqué des routes pour faire part de leur désespoir. Les deux monnaies sont étroitement liées. La livre syrienne, elle aussi, atteint son plus bas historique. Avant le conflit, il y a 10 ans, 1 dollar valait 47 livres syriennes. Il faut aujourd'hui en compter 4000. La monnaie syrienne a perdu près de 99% de sa valeur. Direction maintenant les États-Unis, où Joe Biden entend bien se différencier de son prédécesseur, notamment sur sa politique vis-à-vis de la Russie. 7 hauts responsables russes sont désormais visés par des sanctions américaines. Washington considère que Moscou est bien responsable de l'empoisonnement l'été dernier d'Alexei Navalny. L'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine a depuis été emprisonné. Ses soutiens dénoncent une décision politique. Et après la demande d'une enquête par des experts des Nations Unies et des sanctions annoncées par l'Europe, c'est donc Washington qui met la pression. À New York, Loïc Loury.
En 2018, à Helsinki, la complaisance de Donald Trump à l'égard de Vladimir Poutine avait choqué jusque dans son camp. Joe Biden veut montrer que son administration ne se comportera pas de la même façon avec Moscou. À Washington, des sanctions ont donc été annoncées, notamment des gels d'avoir contre 7 responsables du Kremlin. Parmi eux, en particulier Alexander Bortnikov, le puissant patron du FSB, les services secrets intérieurs russes. L'utilisation d'armes chimiques par le Kremlin, dit la secrétaire au Trésor, Trésor, Janet Yellen, pour faire taire un opposant politique, démontre un mépris flagrant pour les normes internationales. Des sanctions, assure-t-elle, prises en concertation avec les Européens dans un souci d'unité entre alliés. Même si pour les États-Unis, l'affaire est aussi très personnelle, les griefs étant nombreux envers la Russie, à commencer par son ingérence présumée dans la présidentielle de 2016. Et s'il s'agit des premières sanctions, certes symboliques, prises contre Moscou par Joe Biden depuis son arrivée à la Maison-Blanche, ce ne seront sans doute pas les dernières. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et réaction de Moscou à la suite de ces sanctions. Il ne faut pas jouer avec le feu, rappelle le Kremlin à la Maison-Blanche. Les autorités colombiennes poursuivent la chasse aux dissidents FARC. 10 guérilleros ont été tués hier dans un bombardement de l'armée. 3 dissidents des anciennes forces révolutionnaires ont également été capturés. En Colombie, la plupart des anciens FARC ont déposé les armes, mais certaines fractions dissidentes se sont marginalisées. Des groupes de narcotrafiquants qui comptabilisent environ désormais 2500 hommes. C'est un procès très attendu qui se déroule cette semaine au Pérou, celui de l'ancien président Alberto Fujimori et de 3 de ses ministres accusés d'avoir fait stériliser plus de 300 000 femmes, la plupart sans leur consentement, entre 1996 et 2000. Après moult reports, le procès a finalement débuté cette semaine. À Lima, Viloen Munoz Boileau.
Les victimes attendent ce procès depuis plus de 20 ans. Esperanza est l'une d'elles. En 1996, cette Péruvienne venait d'accoucher de son deuxième enfant quand des médecins ont débarqué chez elle.
Ils m'ont emmenée de force dans une ambulance et je n'étais pas la seule. Plusieurs femmes ont été entassées comme des animaux. On nous a emmenées à l'hôpital, puis en salle d'opération et après, je ne me souviens plus de rien.
Comme elle, plus de 300 000 femmes ont été stérilisées, souvent de force et dans des conditions sanitaires précaires. Certaines en sont mortes, les autres subissent aujourd'hui encore de nombreuses séquelles. La plupart étaient issues de milieux défavorisés, parlaient le quechua et vivaient dans des zones rurales. Elles ont été victimes de la politique de planification familiale mise en place dans les années 90 par le président Alberto Fujimori au nom de la lutte contre la pauvreté. Lors de la première audience du procès, le ministère public a présenté les charges qui pèsent contre l'ancien président et 3 de ses ministres accusés de violation des droits de l'homme. Maria Elena Carvajal, présidente de l'association des victimes, se réjouit que le processus judiciaire ait enfin débuté.
C'est un soulagement. Le dossier avait été archivé à plusieurs reprises et depuis sa réouverture en 2018, le début du procès a été constamment repoussé. Mais on a confiance en la justice. Elle a tardé, mais elle finit par arriver.
Alberto Fujimori purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité, mais n'avait jusqu'ici pas été jugé pour les stérilisations forcées.
Au moins 10 000 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église française, c'est ce qu'affirme la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui revoit fortement à la hausse le nombre de victimes. Le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, livrait hier un point d'étape sur son travail. Les faits remontent souvent aux années 1950 et nous sommes encore loin de la vérité, a déclaré Jean-Marc Sauvé à la presse. En Éthiopie, nous fêtions hier les 125 ans de la bataille d'Adoua. Célébrée dans tout le pays, cette victoire militaire contre les Italiens est devenue l'acte fondateur de l'Éthiopie moderne, le jour où l'empereur Ménélique a évité la colonisation. Cette année, les célébrations ont connu un engouement particulier, alors que le gouvernement est en guerre contre le Tigré, là où se trouve justement Adoua. Et dans les rues d'Addis Abeba, la capitale, la guerre actuelle n'a pas empêché de se souvenir de cette victoire mythique. On y retrouve Noé Ochebaudin.
Manteau long et chapeau caractéristique sur la tête, Mikias Wandou, 17 ans, participe à une reconstitution de la bataille. Cet adolescent tient le rôle principal, celui de l'empereur Ménélique, héros éthiopien face aux Italiens.
Les Éthiopiens ont réussi à préserver notre liberté, car nous étions unis et nous avons combattu tous ensemble contre les Italiens. Adoua a vraiment une place très spéciale dans notre mémoire.
Adoua, une victoire contre l'impérialisme italien donc, mais aussi contre tous ceux qui menacent l'unité éthiopienne, assure Fethene Mebra Biranou, comprenez le parti tigréen du TPLF.
Aujourd'hui, 2 factions politiques se battent et le TPLF doit être vaincu, même si nous n'étions pas favorables à une guerre. Ce qui devait arriver arriva. On se bat précisément contre ceux qui nous empêchaient de fêter Adoua par le passé.
Célébrer Adoua, un dilemme pour Enoch. Comment se réjouir d'une bataille passée alors qu'une autre est actuellement en cours dans la même ville?
Ce qui meurt en ce moment sont nos concitoyens. Dès qu'il y a une guerre, il y a malheureusement des pertes humaines. Cette guerre a différentes
conséquences comme la destruction d'infrastructures, des réserves d'eau, des routes, de l'électricité.
D'après les témoignages en provenance du Tigré, c'est une autre puissance étrangère qui a occupé Adwa récemment, en l'occurrence l'armée érythréenne. Addis Abeba, Noé Ochebodin, Radio Vatican.
À 72 heures du voyage du pape François sur la terre d'Abraham en Irak, intéressons-nous aux évolutions politiques et sociales récentes du pays des deux fleuves qui cumulent les crises. Plusieurs décennies de guerre, de corruption et de faibles investissements ont laissé l'Irak avec des services publics déficients et des pénuries récurrentes d'eau et d'électricité. Un soulèvement populaire a démarré fin 2019, mais le mouvement s'est aujourd'hui essoufflé sous l'effet de la répression et de la crise sanitaire. Le contexte économique et social des Irakiens ne s'est cependant pas amélioré. Pire, la situation sécuritaire est plus que jamais instable. Les organisations de milices se multiplient et se substituent à l'État, qui apparaît lui désarmé, laissant entrevoir un retour des djihadistes de Daesh capitalisant sur la détresse sociale. Un pays encore frappé ce matin par des violences, on vient de l'apprendre, des roquettes se sont abattues sur une base abritant des soldats américains. Adel Bakawa, chercheur associé à l'IFRI, il nous décrypte ces multiples crises et conflictualités irakiennes.
Vous avez l'offensive militaire turque dans le nord, le déploiement des milices dans le sud et dans le centre. Vous avez le retour en force de l'organisation d'État islamique. La conflictualité entre Erbil et Bagdad qui arrive à un niveau dangereux. Des roquettes qui pleuvent sur les bases américaines et les ambassades un peu partout dans la zone verte. Vous avez un gouvernement désarmé face à toutes ces crises économiques, politiques, sécuritaires. Et vous avez aussi les élections prévues pour le mois d'octobre. Le grand ayatollah irakien, ayatollah Sistani, la marjaïa du Najaf, chaque vendredi, d'une manière systématique, alerte le peuple irakien à ne pas glisser vers la guerre civile. Pourquoi ? Dans cet Irak, vous avez 63 organisations miliciennes lourdement armées qui disposent des hélicoptères, des chars, des drones, des roquettes avec au moins 175 000 combattants. Et donc dans cette milicisation de la société et de l'État irakien, bien évidemment, le risque de l'insécurité est très 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 haut.
Et face à cela, un Bagdad, un pouvoir central affaibli.
Vous avez un premier ministre à la tête du gouvernement qui n'a aucun député au sein de l'Assemblée nationale, qui n'a pas la légitimité démocratique, un premier ministre qui n'a pas un parti politique, qui n'a pas une base sociale derrière lui, et donc un premier ministre pris en otage par les milices et par les élites. Elles-mêmes disposent de tous les capitaux, le capital militaire, le capital sécuritaire, le capital financier, et donc oui, vous avez un gouvernement totalement désarmé face à toutes ces crises. Mustafa Kazemi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec une certaine légitimité de ce mouvement de contestation, il a fait 22 promesses. À ce jour-là, aucune promesse n'est tenue. Et de ce fait, la seule légitimité qu'il avait, il l'a perdue.
Quant au groupe État islamique, quelles sont les séquelles encore qui subsistent de son occupation ? Quelles menaces de sa part se profilent ?
L'organisation d'État islamique n'est pas coupée d'une base sociale. Au contraire, à certains niveaux, reflète le désespoir de la communauté sunnite qui dirigeait l'État de 1921 à 2003, ont été marginalisés de 2003 à 2005. C'est pourquoi ils sont entrés dans une résistance contre l'occupation américaine. Pendant cette période-là, l'État irakien a mis en place la désunification. C'est pourquoi en 2014, les sunnites, trahis par la communauté internationale, s'engagent massivement dans le mouvement l'organisation d'État islamique. Mais en 2017, encore une fois, les États-Unis d'Amérique, la coalition internationale, font avec l'État irakien la grande promesse à cette communauté. Si les sunnites s'engagent dans la guerre contre l'organisation d'État islamique, cette fois, c'est sûr, ils seront intégrés, réintégrés dans l'État irakien. Mais de 2017 à ce jour-là, 2021, non seulement leur réinsertion au sein de l'État irakien n'est pas réalisée, même le mouvement de la reconstruction de leur pays, c'est-à-dire reconstruire des maisons, des routes, des infrastructures. Autrement dit, vous êtes à Mossoul, vous avez encore l'odeur des cadavres.
grave dans les rues. Rarement vous trouvez un quartier mixte entre les chiites et les sunnites. Ce retour en force de Daesh représente en quelque sorte le désespoir de cette communauté sunnite qui ne dispose aucune perspective d'avenir, aucun projet.
Voilà, interrogé par Delphine Allaire, Adel Bakawan, chercheur franco-irakien associé à l'IFRI, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Je vous souhaite une très belle journée. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 13h. Et d'ici 30 minutes, vous pourrez suivre, si vous le souhaitez, l'audience du Saint-Père sur notre site internet. Au revoir.